Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission du samedi, une émission proposée aujourd'hui par Anna Kubishta et présentée par Anna Kubishta également. Voilà. Sinon, les rubriques d'aujourd'hui sont la culture, le courrier des auditeurs et la littérature. Et nous commençons immédiatement par la culture. Le spectacle Don Quichotte, présenté à Prague au début du mois d'août, dans le cadre de la 13e édition des fêtes d'été de musique ancienne, par une troupe française en collaboration avec un compositeur et des musiciens tchèques et slovaques, est le deuxième projet d'improvisation théâtrale et musicale franco-tchéco-slovaque mené à bien par Jana Semeradova, directrice du Collegium Marianum de Prague, et Bastien Ossard, metteur en scène et acteur. La particularité de la pièce est tout d'abord d'être une adaptation d'un texte qui n'est à l'origine pas destiné au théâtre et qui, surtout, est l'un des textes les plus complexes de la littérature mondiale. De plus, les trois acteurs, Bastien Ossard, Julien Sigana et Benjamin Egner, se partagent les rôles des deux protagonistes et des personnages qu'ils rencontrent sur leur chemin. En mêlant jeu des acteurs, danse, chant, musique et même ombre, la troupe Skapenovae nous entraîne dans un monde d'aventure avec pour guide le duo inséparable de Don Quichotte et Sancho Panza, une interview menée par Ariane Batutovan.
Culture sans frontières.
J'ai choisi Don Quichotte pour une raison particulière. Bien sûr, le roman recèle plein de profondeur de champ, mais la principale, c'est le lien qui unissait Don Quichotte et Sancho tout le long du roman. Ces deux personnes qui partent comme ça, qui ne se connaissent pas du tout au départ ou très mal, et surtout qui sont extrêmement opposées l'un à l'autre, et qui finissent par devenir. Ils deviennent inséparables de fait parce qu'ils partent à l'aventure, mais qui, lorsqu'ils sont séparés, se manquent l'un l'autre, et on se rend compte que ces différences qu'il est caractérisées au début, finalement, deviennent une richesse incroyable l'un pour l'autre. Donc c'est entre autres pour ça que j'ai choisi l'œuvre. Après, bien sûr, il y a toutes les variations possibles, la quête d'absolu de Quichotte, qui reste quand même une donnée qui moi me touche beaucoup, parce qu'effectivement, comme nous vivons dans un monde très pragmatique, le fait de qu'il y ait ce personnage-là un peu fou qui nous dise que tout est possible finalement, parce que c'est vrai, ils n'ont aucun moyen, ils n'ont aucune arme pour partir vivre leur aventure, mais tout est possible. Et donc voilà, cette quête d'absolu de Quichotte aussi, pour moi, était très importante.
Comment avez-vous réussi à adapter le livre?
Alors, ça n'a pas été facile. J'ai fait une première adaptation où je me suis surtout donc attaché à la relation entre Quichotte et Sancho. Ça a été mon fil conducteur. Parce que, évidemment, dans ce roman, il y a des dizaines et des dizaines de personnages qu'ils croisent. Mais je me suis attaché à la relation entre eux. Donc, j'ai commencé une première adaptation comme ça. Après, les répétitions sont arrivées. Et elles ont un peu bouleversé l'ordre des choses. Donc j'en ai refait une autre. Mais tout en gardant toujours ce fil-là. Donc voilà. Après, c'est vrai que ça a bougé au niveau du texte. Mais le fil conducteur, ça a toujours été ça.
Et comment vous faites avec trois acteurs, c'est ça, pour jouer les personnages que vous avez choisi de garder?
D'une part, c'est que Quichotte, Sancho, qui sont quand même les deux personnages phares, on se les passe les uns les autres. C'est-à-dire que ce n'est jamais le même Quichotte ni le même Sancho. C'est chacun son tour, un peu. Et puis, il y a une petite galerie de six autres personnages qui sont là, un peu comme des témoins, qui viennent raconter un peu ce qu'ils savent de ces deux-là. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre. Enfin, voilà, c'est des personnages haut en couleur. Et ça aussi, on se les partage. Donc il y a tout le long du spectacle, il y a Quichotte et Sancho, et au milieu, de temps en temps, il y a la gouvernante de Quichotte, il y a le meilleur ami de Sancho qui vient, il y a un aubergiste accompagné d'une prostituée qui parle, ils les ont rencontrés un jour, et tout le monde témoigne un peu comme ça de ce qui s'est passé, et c'est nous trois qui tournons tout du long.
Est-ce qu'il y a aussi Dulciné?
Dulciné, non.
Non.
Mais d'une part parce qu'elle arrive très très tard dans le roman, à la fin du tome 2. Et ça, je ne suis pas dans l'adaptation. En tout cas, je ne suis pas allé si loin. Je me suis servi de quelques passages du tome 2. Mais il y a certains passages que je n'ai pas pu adapter, sinon le spectacle aurait fait 18 heures. Et Dulciné, on la voit pas aussi pour une simple raison, c'est que Quichotte ne la verra jamais. Mais on en parle beaucoup.
Quelle est la place de la musique dans la représentation théâtrale?
Elle est extrêmement importante. D'une part, parce qu'avant même qu'on se retrouve ici pour répéter tous ensemble, moi je suis venu plusieurs fois à Prague pour commencer à réfléchir un peu à ce que serait la musique, la place de la musique dans le spectacle. Et ce n'est pas un énième personnage, mais c'est les musiciens à la fois accompagnent l'action. Or, ça peut être musicalement, ça peut être aussi par des bruitages, des ambiances, et aussi Stano Palouche qui a composé la musique a composé des vrais thèmes. Donc on peut avoir le thème de Sancho, le thème de Quichotte. On reconnaît un peu, vous voyez, comme dans les films, un peu à la Ennio Morricone, où le méchant, il a son thème, le gentil, il a son thème, etc. etc. Donc c'est un peu accompagné comme ça.
Donc c'est un répertoire qui a été créé pour cette pièce.
Absolument.
Il y a aussi des marionnettes dans le spectacle.
Ça, c'est une idée de départ. En fait, elle a été remplacée. C'est même pas qu'elle a été remplacée. C'est qu'avec les répétitions, ça nous paraissait compliqué, en tout cas dans... dans ce qu'on était en train de raconter, la marionnette n'avait pas trop sa place. Mais en revanche, il y a un peu de théâtre d'ombre. On va se servir pas mal de l'ombre pour caractériser certaines scènes.
Quelles sont vos influences pour la mise en scène?
Écoutez, il y en a eu plusieurs. D'une part, moi, j'avais envie que la place de... je ne vais pas dire de la danse, mais la dimension chorégraphique, en tout cas, soit très présente. D'une part, parce qu'on n'est que trois, et à trois, le meilleur moyen de signifier ou d'ouvrir l'imaginaire, c'est de donner une place importante à la chorégraphie. Enfin, quand je dis chorégraphie, comme on n'est pas des danseurs, c'est pas... mais c'est comment, par exemple, la scène des moulins à vent est chorégraphique. On a juste quelques bouts de tissu qui signifient, mais c'est nous, à trois, qui signifions les moulins, Quichotte qui se fait emporter par les moulins et tout ça. Et les influences, elles sont diverses. Par exemple, l'idée des moulins m'est venue d'une image que j'avais vue dans un spectacle de James Thierry il y a quelques années. Après, tout ce qui, la dimension plus... théâtre dans le théâtre, ou comment ouvrir l'imaginaire du spectateur, c'est toute l'influence du théâtre Katakali.
Quel est votre rapport avec la République tchèque?
Mais écoutez, ça fait depuis 2007 qu'on travaille, qu'on vient travailler régulièrement ici. On avait fait un spectacle il y a quelques années, Skapinové, et il y a un an et demi, donc avec le Collegium, avec Jana Semeradova, on a décidé de monter Don Quichotte parce qu'on sentait qu'il était important que l'aventure entre nous continue. Donc leurs rapports avec la République tchèque sont très bons. Et ils risquent de continuer après Quichotte.
Et le spectacle continue en République tchèque et en France?
En France, c'est sûr. En République tchèque, pour l'instant, on ne sait pas. On aimerait beaucoup. Parce que, par exemple, sur Skapinové, on était allé jouer... du côté de Brno, et puis on va aller jouer à Bratislava, en tout cas en février prochain. Mais l'idée, c'est quand même, effectivement, qu'il y ait toujours une alternance entre la France et la République tchèque. Ça, c'est très important pour nous.
Quels sont vos projets pour la suite, après Don Quichotte?
Après Don Quichotte? Écoutez, il y a un spectacle, c'est marrant que vous posiez la question, parce qu'il y a quelques jours, j'ai commencé à y penser, alors que Don Quichotte, on ne l'a même pas joué encore, mais je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'affiche rouge, c'est l'histoire d'un groupe de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, qui était... Ils étaient 23 dans ce groupe de résistance. Ils étaient de nationalités diverses, certains polonais, italiens, arméniens. Ils avaient la particularité d'être tous juifs, en plus. Ils se sont battus pour la libération de la France. Et ils se sont fait arrêter par la Gestapo et tous fusillés sur le Mont Valérien. Mais C'est pas tant, bien sûr, l'histoire en elle-même est importante, mais ça m'est venu parce qu'on a chez nous un poète qui s'appelle Louis Aragon, qui très, que moi j'aime beaucoup, et qui a écrit un poème qui s'appelle L'Affiche Rouge. On la nomme L'Affiche Rouge d'ailleurs parce que sur tous les murs de Paris à cette époque-là, les nazis avaient affiché une affiche qui était de couleur rouge, avec la tête de tous les membres de ce groupe de résistance, comme quoi c'était des méchants et que c'était normal s'ils avaient été arrêtés. Mais Aragon a écrit un poème qui est extraordinaire, qui est issu d'une lettre du leader de ce groupe de résistance qui s'appelait Manoukian, et qui, au moment de mourir, juste avant d'aller se faire fusiller, avait écrit une lettre à sa femme, et qui est une lettre absolument magnifique, et où il dit, entre autres, qu'il meurt sans haine pour le peuple allemand et qu'il faut continuer à vivre parce que ce qui se passe dans cette vie-là est magnifique. Et c'est cette espèce de cri comme ça, en même temps de paix. Et encore une fois, comment des hommes unis, en fait c'est un peu mon thème, quoi. Comment quand on arrive à être ensemble, on peut tout traverser. Même la mort, là en l'occurrence, puisqu'il va vers la mort très tranquillement.
On continue avec la rubrique Courrier des auditeurs, ce programme bimensuel préparé non seulement pour vous, mais aussi avec vous, et au cours duquel nous aurons le plaisir non seulement de citer quelques extraits de vos messages, mais aussi de répondre à quelques-unes des questions que vous nous avez posées. C'est un programme présenté et proposé par Alana Gebertova.
Courrier des auditeurs.
Pour certains d'entre vous, les vacances sont terminées. Pour d'autres, moins nombreux, elles n'ont même pas encore commencé. Ce n'est pas tout à fait le cas de la rédaction française de Radio Prague, car la plupart d'entre nous avons déjà pu profiter du Farniente estival. Et nous ne pouvons pas mieux commencer qu'en remerciant M. Maurice Mercier de France, qui a souhaité bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui reprennent leur activité. Dans sa missive du 3 août, Maurice Mercier a en outre signalé.
J'ai bien apprécié le reportage et l'interview de Jana Verdier, 41 ans, professeur originaire de République tchèque établie en France depuis 15 ans. C'était très intéressant.
Une lettre très estivale nous a été envoyée aussi par M. Christian Guibaudou.
Le soleil et la chaleur sont toujours omniprésents sur la Côte d'Azur. Cela fait maintenant pratiquement 2 mois qu'il n'a pas plu, et du moins dans des conditions utiles. Heureusement, les nuits sont plus fraîches, cela aide à supporter la chaleur diurne. Même si mes vacances sont terminées, j'ai encore un peu de temps pour écouter Radio Prague. J'aime bien la série estivale sur le questionnaire de Proust que j'écoute les mardis.
Plus loin, notre auditeur français nous pose une petite question.
En République tchèque, le ramassage des ordures ménagères est-il fait par les municipalités ou par des sociétés privées qui agissent en tant que clientes des municipalités? De plus, le tri sélectif est-il obligatoire chez vous?
En effet, ce sont les municipalités qui gèrent le ramassage des ordures ménagères. Conformément à la loi, s'y rapportant, elles assurent le ramassage, le transfert, le tri, l'exploitation et l'élimination des ordures communales. Leur réalisation est confiée à différentes sociétés. Le tri sélectif, qui a été mis en œuvre en 1998, n'est pas encore obligatoire en République tchèque. Ceci dit, il faut constater que dans ce domaine, les Tchèques font preuve d'une assez grande responsabilité à l'égard de l'environnement, car ils pratiquent le tri sélectif couramment et de leur propre gré en ville ainsi qu'à la campagne. Nous avons le plaisir de saluer très cordialement notre fidèle correspondant Philippe Marsan et de le remercier pour sa carte postale dans laquelle il revient sur la récente nuit de la radio dans le Perche et signale qu'il est toujours à l'écoute des ondes courtes. Mais, comme il le remarque, Radio Prague, hélas, n'y est plus.
M. Farid Bouchmal d'Algérie, qui a pris la sympathique habitude de nous écrire régulièrement et de nous suivre sur Internet, nous signale dans son rapport du 1er août avoir retenu dans nos programmes, notamment les articles consacrés à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en février prochain, ainsi que ceux se rapportant à la participation tchèque aux Jeux olympiques d'été.
Une occasion pour nous d'ajouter quelques précisions concernant ces derniers en réponse à ceux d'entre vous qui souhaitent savoir quels ont été, dans toute l'histoire olympique, les Jeux qui ont apporté aux athlètes tchèques le plus de succès. En ce qui concerne l'ancienne Tchécoslovaquie, avant donc sa partition en 1993, c'est aux Jeux de Tokyo en 1964 que les athlètes tchèques et slovaques ont gagné le plus de médailles, avec un total de 14, dont 5 médailles d'or. Aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, les premiers après la partition de l'État commun des Tchèques et des Slovaques, les athlètes tchèques ont remporté 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Les Jeux olympiques de Londres ont également apporté à la Tchéquie quelques très beaux succès. L'heure des bilans n'a toutefois pas encore sonné. Mais rassurez-vous, nous le ferons dès lundi prochain, lendemain de la cérémonie de clôture.
Monsieur Roger Roussel du Canada nous a envoyé une nouvelle fois un rapport d'écoute détaillé accompagné de son traditionnel bravo, histoire d'apprécier le contenu et la présentation de nos émissions.
De même, nous avons reçu un rapport d'écoute détaillé d'Otsamu Eikawa qui témoigne de ce que notre auditeur japonais suit très attentivement nos émissions. Dans son long message, nous avons également pu lire la description d'un événement dont il a été le témoin.
Un feu d'artifice a eu lieu sur la rivière Sumida hier. La rivière Sumida est située à proximité de l'arbre du ciel. Ce feu d'artifice est traditionnellement le plus grand de Tokyo. Je suis allé à Asakusa et à Oshiage pour regarder et prendre beaucoup de photos là-bas. J'envoie donc quelques photos avec ces lettres et j'espère que vous les apprécierez. Et je vous assure que j'apprécie de mon côté beaucoup vos belles cartes KSL.
Merci cher ami pour vos paroles. Merci également à vous tous qui nous avez écrit. Et nous espérons vous trouver prochainement plus nombreux à nous adresser vos messages, vos remarques et observations dont nous vous présentons les extraits les plus intéressants dans ce programme mensuel. Et comme notre concours du mois se poursuit, voici encore notre nouvelle question.
La question du mois d'août est donc la suivante. Comment s'appelle la diplomate américaine d'origine tchèque qui a été secrétaire d'État des États-Unis entre 1997 et 2001?
Parmi les bonnes réponses, 6 vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix. Envoyez vos réponses avant le 31 août à l'adresse suivante, ser@radio.cz. Vous trouverez les noms des vainqueurs sur nos pages destinées au courrier des auditeurs.
Dans sa rubrique littéraire, Václav Richter vous parlera d'un livre né d'une étroite collaboration entre une Chinoise et un Tchèque. Ce livre, qui a eu un grand succès auprès des lecteurs tchèques, retrace un des chapitres les plus douloureux de l'histoire chinoise du XXe siècle.
Rencontre littéraire. En écrivant des textes en commun, nous avons toujours eu l'impression que cet effort nous rapprochait encore davantage, qu'il nous aidait à faire ressurgir dans notre pensée des moments presque oubliés, écrivent les époux Taitun Heislarova et Joseph Heislar dans la postface du livre qu'ils ont écrit en commun et intitulé « Sur le fleuve ». Taitun Heislarova est née en 1932 en Chine. Joseph Heislar est un sinologue tchèque né en 1927. Ils ont démontré à travers leur existence que des personnes provenant de peuples et de cultures extrêmement éloignées peuvent vivre en parfaite symbiose. Ils ont souvent travaillé ensemble, leur collaboration a donné naissance à plusieurs ouvrages avec lesquels ils cherchaient à rapprocher la culture chinoise et tchèque. Leur roman sur le fleuve est un récit autobiographique dans lequel Taytun Heyslarova, aidée de son mari, donne une superbe forme littéraire aux souvenirs de son enfance. Leur roman a été couronné en 2011 du prix littéraire du Club du Livre Tchèque. Taytun et Joseph se sont rencontrés dans les années 1950 lors de leurs études à l'université de Pékin. Ils se sont mariés en 1956 et se sont installés en Tchécoslovaquie pour y vivre et travailler ensemble. Cette collaboration s'est poursuivie jusqu'à la disparition de Joseph Heyslar en janvier 2012 à l'âge de 85 ans. Taytun Heyslarova se souvient.
Nous avons tout le temps collaboré et finalement nous nous sommes dit que nous allions écrire quelque chose de ce genre, un roman. Quand je suis arrivée en Tchéquie, j'ai été obligée en raison de mon travail d'étudier le tchèque à la faculté des lettres en tant qu'étudiante externe. Mon travail et ma famille ne me permettaient pas de m'inscrire aux études régulières. J'avais chez moi le professeur de tchèque le plus sévère, mon mari. Donc je parle tchèque, même si je fais des fautes de grammaire, cela m'est égal. Je ne suis plus obligée de penser en chinois.
La gestation du roman a été un processus qui a duré toute la vie, ou presque, de ses auteurs. En 2011, après la publication du livre, Joseph Heyslar a parlé de cette longue maturation et du rôle du temps qui atténue et adoucit les souvenirs douloureux.
Nous avons parlé de nos meilleurs souvenirs, et c'est l'enfance. L'enfance est belle.
Nous nous sommes raconté les plus belles années de nos vies, nos enfances. L'enfance est belle, elle est pleine de grande poésie. On oublie les faits difficiles et désagréables. Ils ne passent pas par le tamis de la mémoire. Les beaux souvenirs nous restent. Mon enfance et celle de ma femme ont souvent été bien difficiles, mais pleines de beauté, d'émotions, pleines de richesses. Surtout l'enfance de ma femme. Ce que sa famille a vécu, c'est une véritable épopée. Nous avons raconté cette enfance d'une façon tout à fait naturelle. Ma femme a passé son enfance pendant la guerre et notre livre est donc un récit sur la guerre.
Le roman sur le fleuve se situe en Chine à la fin des années 1930. Les premiers chapitres évoquent le massacre de Nankin en 1937, au début de la Seconde Guerre sino-japonaise. Les atrocités commises par l'armée japonaise, qui, après la bataille de Nankin, ancienne capitale de la République de Chine, coûteront la vie à près de 300 000 personnes, et la cruauté des représailles dépassent toute imagination. Dans cette situation, la mère de la petite fille qui nous raconte cette histoire, elle s'appelle Kanel, décide de fuir avec ses filles la zone occupée par l'armée de l'empereur Hirohito et de se réfugier à l'intérieur du pays. La seule voie qui reste à cette famille démunie et abandonnée par le père est le long fleuve, le Yangtze, le plus grand et le plus majestueux cours d'eau d'Asie. Cette vaste route fluviale est cependant étroitement surveillée par les chasseurs de l'occupant japonais qui tirent sur tout ce qui bouge. Le voyage en bateau de la mère et de ses filles devient une course de la mort. Et le fait que la famille survive à cette horrible épreuve s'apparente à un miracle. Après maintes aventures dangereuses vécues sur le fleuve, la famille arrive finalement dans la ville de Chongqing, devenue provisoirement capitale de la Chine. C'est là que la mère et ses filles passeront la guerre. C'est aussi là que, dans les conditions toujours difficiles, elles réapprendront à respirer, à vivre et même à profiter de la vie. Un jour, l'histoire de cette enfance difficile finira par rapprocher encore davantage Taytun de son mari tchèque.
Pour moi, je crois que pour chaque auteur, le thème le plus proche est celui que j'ai vécu. J'ai raconté mon enfance à mon mari et il m'a raconté la sienne. Les joies, les tristesses et les déboires de nos enfances se ressemblaient tant. Les enfants sont les enfants. Mon mari provient d'une famille assez pauvre. Ma famille était riche, mais elle a tout perdu dans la guerre. Nous avons vécu dans le dénuement et la misère, mais je crois que cela convient à mon caractère et a aussi contribué à mon désir de partager tout cela avec les lecteurs tchèques.
Si le récit sur cette descente aux enfers n'est pas insoutenable, c'est qu'il nous est raconté par une enfant. L'histoire est reconstituée à partir des souvenirs de Kanel, une petite fille. La septuagénaire Taitune Heislarova se souvient de cet enfant qu'elle a été et qui, même dans les périodes les plus difficiles, a su arracher à la vie quelques moments de trêve, quelques menus plaisirs, quelques petites joies enfantines. Kanel ne peut continuer à vivre et à espérer que parce qu'elle se sent aimée par sa mère et ses sœurs. Elle n'oubliera plus ces petits moments de bonheur et gardera aussi à jamais en elle la beauté saisissante des paysages qu'elle traverse sur un bateau, emporté par les vagues du long fleuve. Ces images se fixeront dans sa mémoire et transformeront son récit d'un désastre en une lecture captivante, enrichissante et révigorante. Peu à peu, le lecteur commence à admirer cette mère courage et ses filles, découvre les traits spécifiques de leur caractère, se familiarise avec la vie et les coutumes chinoises. En même temps, il sent que quelque chose change dans cette culture traditionnelle et que la guerre accélère ces changements. Il assiste à une lente transformation des jeunes héroïnes du roman, qui cessent d'être des créatures passives et obéissantes à l'autorité masculine pour apprendre à décider elles-mêmes de leur vie. L'apport de Josef Heislar à la rédaction de ce livre a été important. Taitune avoue que c'est le lyrisme et l'excellente connaissance de la langue tchèque de son mari qui ont été décisifs pour le style du roman. En rédigeant ce texte avec sa femme, Josef Heislar a trouvé beaucoup d'inspiration dans sa propre enfance.
C'est dans l'enfance que nous sommes les plus proches l'un de l'autre. Quelle que soit notre nationalité ou notre race, l'enfance nous rapproche. Partout, les enfants sont polissons, gais et curieux. Il y a beaucoup de ressemblances. Les différences commencent à s'approfondir avec l'âge. Nous nous sommes connus mutuellement et ce livre n'est pas une autobiographie unilatérale, mais bilatérale. Cependant, l'histoire que nous racontons n'est que chinoise et c'est le récit d'une vie qui a été dure.
Dans le jury ayant attribué le prix littéraire du club du livre tchèque à l'ouvrage figurait l'écrivain Jaroslav Rudiš. Pour lui aussi, sans doute pour beaucoup d'autres, la lecture de ce livre a été une découverte de la Chine, de la vie dans ce pays, de sa nature et d'une page terrible de son histoire. C'est ainsi qu'il a évoqué les sensations suscitées par sa lecture.
Ma première impression a été d'être subjugué par l'atmosphère de ce livre. C'est un style très détaillé et très captivant. Cela se passe sur une rivière et le récit est très vivant. C'est une sensation presque physique, comme si j'y étais. Comme cela se passe pendant la guerre, c'est parfois une lecture assez rude, mais en même temps, il y a beaucoup de poésie. Et c'est plutôt rare aujourd'hui où les livres ont plutôt tendance à une certaine austérité. Et puis il y a aussi l'histoire à suspense de ces gens qui s'enfuient, une histoire captivante et saisissante. Bref, si je dois résumer l'impression que ce livre m'a laissée, c'est l'atmosphère de ce fleuve qui coule et la sensation quasi physique de la navigation à travers la Chine.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission du samedi, une émission évidemment qui était consacrée à la culture, à vos courriers également, à la littérature. Tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, sous forme de podcast, sous forme d'articles, mais également en streaming. Et puis évidemment, comme vous l'a rappelé tout à l'heure Alena Gebertova dans son courrier des auditeurs, n'oubliez pas de participer à notre concours, la question du mois. Vous retrouverez évidemment celle-ci sur notre site internet évidemment et merci de votre fidélité. Demain vous retrouvez dimanche Guillaume Larguet pour sa rubrique musicale. Merci de votre fidélité, bon vent, ahoy.